Bonjour à tous, bienvenue pour cet entretien avec Estelle Fay.
Bonjour.
Auteur, novelliste, scénariste, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre?
Essayons d'être réalisatrice.
Oui, on en parlera sûrement à un moment donné dans cette conférence. C'est ta première fois aux Utopiales?
Alors j'étais venue quand j'étais pas auteur.
En tant qu'invité.
Voilà, en tant qu'invité, et c'est quasiment la première fois, parce que sinon j'étais passée une après-midi en coup de vent, je m'étais dit que c'était merveilleux. Et j'avais jamais pu y revenir depuis, donc je suis très contente d'être là.
Et ma première question, c'est concerne l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Comment tu as connu ces littératures, ces univers, et qu'est-ce qui t'a inspiré, motivé?
Bah en fait, au départ, quand j'ai commencé à lire, j'étais toute môme, je lisais ce qu'il y avait dans les bibliothèques autour de moi, et notamment dans la bibliothèque de ma mère, qui est une grosse fan de science-fiction. Enfin, elle est scientifique, mes parents sont tous les deux scientifiques. Ma mère est très, très branchée astrophysique. Donc, elle avait forcément tous les Asimov, les Van Vogt, Chroniques martiennes. Et moi, j'allais piocher dans sa bibliothèque, aussi Cristal qui songe, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et finalement, pour moi, la littérature... c'était l'imaginaire. Après, j'ai commencé à jouer aux jeux de rôle, comme je pense pas mal de gens de ma génération. Donc j'ai découvert la fantasy, j'ai découvert Tolkien. J'ai bien aimé, mais franchement, j'étais toujours plutôt SF. Et puis j'ai découvert la fantasy française, j'ai découvert Abîme et Chroniques des Crépusculaires de Mathieu Gaborit. J'ai eu un coup de cœur, mais énorme. Je me suis dit, ah ouais, en fait, avec la fantasy, on n'est pas obligé de faire des histoires médiévales avec des prophéties et des élus. Et c'était génial, et c'est ça qui m'a fait aimer la fantaisie. Et à côté de ça, j'ai commencé des études littéraires. Et là, j'ai vu que dans le vrai monde, autour de moi, bah, finalement, la vraie littérature, c'était la littérature générale, c'était la littérature blanche. Et que ce que moi, j'aimais, c'était une sorte de niche qui était plus ou moins mal considérée, on va dire gentiment. Donc, mais c'était, voilà, je suis vraiment partie du côté inverse, en fait, du côté où la littérature, c'était évidemment l'imaginaire.
Et ta passion pour l'écriture, quand est-ce que tu as commencé à écrire?
Alors, j'ai commencé à écrire littérairement assez tard, mais par contre, j'ai toujours raconté des histoires. Au départ, pour mon petit frère, qui était petit à l'époque, qui est très grand maintenant, qui avait 5 ans de moins que moi, et on voyageait beaucoup, beaucoup quand on était enfant avec mes parents. On voyageait beaucoup en train dans toute l'Europe. Et pendant le train, pour faire passer le voyage, je racontais des histoires à mon petit frère. Alors d'abord, je lui ai raconté les contes et légendes que je connaissais, puis je suis vite arrivée au bout. Et donc, j'ai commencé à inventer des histoires dont je ne connaissais pas la fin quand je commençais à l'inventer. Je partais vraiment à l'aveugle, et puis voilà, ça devait suivre. Et quand par moments, je m'arrêtais de raconter, il me donnait des petits coups de pied, c'était super mignon, mais des petits coups de pied gentils, hein, et pour que je continue. Et puis après, je faisais des histoires avec plusieurs personnages, et les personnages étaient séparés parfois, et je lui demandais, alors tu veux que je suive lequel? Et il me disait, ah bah celui-là, il faut vraiment le suivre, ou vraiment c'est lequel que t'aimes. Ah bah celui-là, il me plaît beaucoup, donc je développais celui qu'il aimait. Et après, il y a nos amis qui sont rajoutés là-dedans, qui sont rajoutés dans cette grande boucle d'histoires, donc finalement, je me retrouvais à raconter à tout un petit public. Mais je pensais pas en faire un métier, enfin, ouais, je pensais pas en faire forcément ça, quoi, plus tard. Et je voulais faire du théâtre à l'époque, d'ailleurs j'ai fait du théâtre. Je voulais être comédienne, j'ai été comédienne. Et en même temps, je me suis toujours retrouvée à écrire. C'est-à-dire, ben, dans mes cours de théâtre, il y a des gens qui avaient besoin de quelqu'un pour écrire une pièce. Et personne n'arrivait à écrire la pièce. Donc ben, moi, j'ai dit, bon, je prends un stylo, je vous écris un bout de pièce, mais ça ne va pas forcément être très bon. Et puis ça a plu, donc j'ai continué à écrire des bouts de pièces. Et après, il y a un ami de mon frère qui passait le concours de la FEMIS, une école de scénario. Mais comme on est dans un milieu de scientifique, il voulait pas passer le concours de scénario tout seul. Mon frère m'a dit, bah écoute, toi qui racontes des histoires, est-ce que tu peux passer le concours en même temps que Julien? Ça l'aidera. Donc j'ai passé le concours de scénario. C'est comme si en fait l'écriture, elle était toujours là au-dessus de mon épaule et que moi, je l'assumais pas, quoi. Et la dernière année de mon école, on organisait des lectures de scénario. À tes souhaits. Et on s'ennuyait pas mal, même beaucoup. Et donc là, il y a une amie qui me dit, bah écoute, il y a une vidéo qui tourne sur Internet. C'est un éditeur qui cherche des nouvelles sur les dragons pour une anthologie. Alors, je connaissais à peine le système des appels à texte que je pense maintenant beaucoup de gens ici doivent connaître. Mais je me suis dit, je vais écrire une nouvelle sur les dragons, ça peut être intéressant. Donc j'écris une nouvelle sur les dragons en un week-end. Je venais de lire la bande dessinée Long John Silver et j'écoutais la musique du Rocky Horror Picture Show en boucle. Je pense que les deux influences se retrouvent beaucoup dans la nouvelle. Et j'envoie ma nouvelle, mais vraiment à ras de la deadline. Et après, je continue ma vie, genre donc école de scénario, préparation des, voilà, de toute la sortie d'école. Et ma nouvelle est retenue. Donc je suis dans l'anthologie Dragon de chez Kalman Levy, qui a une très courte vie parce que la collection est morte peu après. Mais suite à cette nouvelle, j'ai fini mon école et je me dis, je vais me faire plaisir, je vais aller au Festival des Imaginales, que vous connaissez peut-être. Bon, pourquoi les Imaginales plutôt que les Utopiales? C'est simplement, le temps que je termine mon école, les Utopiales étaient déjà passées. Et donc je vais aux Imaginales. Et là, un libraire parisien que je connaissais me dit, écoute, il y a Xavier Mauméjean, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un très grand monsieur.
Qui est invité sur le festival, d'ailleurs.
Qui était directeur de collection à l'époque. Il a lu ta nouvelle et il veut te parler. Donc normalement je suis pas timide, mais là quand même j'ai un peu regardé mes pieds et j'ai parlé à Xavier Mauméjean, me décomposant à moitié de timidité. Et quand je suis rentrée des Imaginales, j'ai commencé à écrire un roman et j'ai commencé à écrire Porcelaine. Et tout s'est enchaîné de manière un peu magique. Donc en fait je suis hyper chanceuse et c'est voilà. Mais bon. Donc on est dans un milieu éditorial qui, moi, me paraît assez merveilleux d'ailleurs, parce que j'ai vraiment débarqué de nulle part, et la manière dont on est accueilli dans ce milieu-là quand on débarque de nulle part, dans un monde où il y a tellement de portes qui se ferment, avoir autant de portes qui s'ouvrent simplement parce qu'on est passionné, je trouve que c'est assez unique.
Et du coup, comment s'est passée la rédaction de Porcelaine?
Très difficilement au début.
Comment t'es venue l'idée de Porcelaine?
Alors l'idée est venue par contre très facilement. C'est justement en parlant avec Xavier Mauméjean. On s'est mis à parler du théâtre parce que c'était vraiment mon boulot principal à l'époque. À l'époque, je dirigeais ma compagnie. Donc, on tournait avec une pièce qui se passait à la Renaissance, pièce fantastique, avec 30 costumes faits main, enfin des effets spéciaux sur scène, un combat sur scène et tout, donc, et que j'avais écrite. Et donc, on s'est mis à parler théâtre. Et puis, on s'est mis, mais alors je ne sais vraiment plus pourquoi, à parler de ma passion pour la culture chinoise et les mythologies chinoises. Et tout de suite, on est parti sur cette idée de faire un livre qui parlerait de Chine et de théâtre et qui serait accessible à tous les publics. C'est-à-dire, ce qu'on voulait faire, c'est un livre qui soit à la fois vraiment ancré dans cette culture chinoise, mais qui parle aussi aux gens qui y connaissent absolument rien. Et j'ai rencontré beaucoup de gens là-dessus qui avaient pas mal de préjugés sur la culture chinoise, ou qui la connaissait très peu, ou en gros, bon, bah, les Chinois, c'est des gens qui se tuent au travail en s'habillant en gris, quoi. Et vraiment, je voulais faire passer mon amour pour cette culture-là dans une histoire qui soit accessible à plusieurs niveaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans tous mes livres. J'essaye de vraiment que ça soit à la fois pour tous les publics et pour les gens qui y connaissent rien, mais qui ont aussi quelque chose à manger pour les lecteurs qui sont à fond dans le genre et qui sont voilà, des hyper geeks et même plus geeks que moi. Et si eux aussi peuvent trouver quelque chose à manger là-dedans, si j'arrive à avoir ce côté multi-public, c'est vraiment l'idéal que j'essaye d'avoir de livre en livre. Et donc ça, l'idée de Porcelaine, vraiment, elle est venue très vite. On a très très vite eu l'idée. Ensuite, j'ai envoyé mes premiers chapitres à Xavier Mauméjean. Ensuite, il m'a renvoyé un mail qui me disait, en y mettant plein de formes, mais en étant très nette là-dessus, que c'était nullissime. Donc, à l'époque, je commençais à faire des captations vidéo, ce que je fais à côté. On filmait un gars qui faisait du one-man show punk dans la miroiterie, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un des grands lieux du punk parisien qui a fermé il y a peu. Un lieu hyper sympa, d'ailleurs. Mais donc, le gars qui faisait du one-man show punk, à qui on parlait un peu bon, dans les discussions impromptues après les séances de montage, donc je parlais des mails que j'avais reçus, et puis lui, tout de suite, il me dit « Ah non, mais c'est qu'il ne veut pas travailler avec toi et qu'il n'ose pas te le dire ». Donc, en gros, il m'a dit, grosso modo, donc, envoyez bouler, quoi. Et là, mon meilleur pote, qui est depuis mon bêta lecteur et qui vraiment m'accompagne dans l'écriture de tous mes livres, il m'a dit, ben non, écoute, il dit que c'est mauvais, mais demande-lui pourquoi c'est mauvais. Après tout, t'as rien à perdre et puis tu peux même apprendre des trucs au passage. Donc, ben, c'est ce que je fais. J'envoie Xavier, ben pourquoi est-ce que tu trouves que c'est mauvais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Et là, il a été mais super pédagogique. Et il m'a vraiment aidé à trouver ma voix en tant qu'auteur, comment écrire, comment moi je pouvais écrire, comment je pouvais développer mes personnages. Et on s'est pris la tête sur le premier chapitre et les premières phrases de Porcelaine. C'est les phrases que j'ai mis le plus de temps à écrire de ma vie. Et on a mis plusieurs mois à trouver les premières phrases de Porcelaine. Et par contre, quand on les a trouvées, vraiment, après, c'était là, c'était lancé. Et quelque part, c'est un peu une méthode que j'ai gardée, parce que dans chacun de mes livres, ce qui me prend du temps, c'est les premiers chapitres. Et une fois que je les ai trouvés, que j'ai trouvé la musique du livre, le rythme du livre, après, c'est lancé. Et après, le reste s'écrit à ce qu'on m'a dit relativement rapidement pour un jeune auteur comme moi. Mais c'est vraiment de trouver le ton qu'il faut. Que ça sonne juste, en fait. C'est à côté, j'ai fait du chant aussi, et c'est vraiment ça, c'est trouver la justesse comme en chant, en fait. Et la musique est différente pour chacun de mes livres. Et c'est ce que j'ai appris avec Porcelaine, et j'ai vraiment, bah, dans le côté, les infâmes chances que j'ai eues. Donc si vous voulez, vous pouvez me lancer des tomates à la fin de la conférence. C'est aussi, j'ai eu la chance de débuter avec, mine de rien, je pense, l'une des personnes qui, en direction éditoriale en France aujourd'hui, savent le mieux comment ciseler un jeune auteur. Et ça, c'est pareil, c'est un énorme cadeau, quoi.
Et ça t'a pris combien de temps en tout, Porcelaine, en termes d'écriture, en termes de recherche? Et d'ailleurs, comment tu travailles au niveau de tes recherches pour l'historicité ou pour te trouver des petits détails? Est-ce que tu es très méticuleuse et ça te prend beaucoup de temps, ou est-ce que tu travailles à l'instinct?
Alors, j'adore faire des recherches. J'adore la documentation, en fait, c'est une passion perverse chez moi. Et l'avantage, quand on écrit des livres qui demandent de la documentation, c'est qu'on a une bonne raison, entre guillemets, pour se ruiner en bouquin de documentation. Notamment, j'adore le rayon documentaire des magasins Gibert du quartier latin, ils sont géniaux. Et en plus, ils ont de l'occasion qui permet d'avoir des gros livres pour quand même un budget à peu près raisonnable. Ça permet aussi, quand on écrit des livres, d'avoir une bonne excuse pour aller embêter des gens qui savent et leur poser des questions sur les sujets qui nous intéressent. Donc ça, c'est génial aussi. C'est « Bonjour, je peux vous interroger, mais ce n'est pas égoïste, hein, c'est pour un livre. » Voilà, donc... Et c'est vrai qu'une des choses que j'adore dans ces boulots-là, c'est que je continue toujours à apprendre des choses. Donc vraiment, bah, ce que m'avait dit Xavier, c'est en gros, écris tes personnages comme si tu allais les jouer en tant que comédienne. Et en tant que comédienne, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les méthodes américaines. C'était ce que j'ai appris à San Francisco. C'est-à-dire... Vous me dites, dès que je digresse trop, en gros, pour se mettre dans un personnage en théâtre, il y a deux solutions. Il y a grosso modo la méthode française où on fait du commentaire de texte. Où en gros, on prend le texte, on dissèque, on dit ici, donc ici vous êtes triste, ici vous êtes heureux, ici vous êtes en colère. Et il y a la méthode américaine, bon, c'est hyper grossier, hein, c'est pour résumer, qui est vraiment, on va essayer d'avoir tout le contexte du personnage. On va essayer d'avoir sa démarche en disant, par exemple, c'est du 19e, donc elle porte un corset si c'est une femme. Comment ça influe sur une posture de porter un corset toute sa vie? Elle porte des grandes jupes, donc ça veut dire que si elle court, elle doit remonter ses jupes. Et c'est, si c'est une bourgeoise, c'est pas bien considéré. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment limiter ses mouvements. Qu'est-ce que ça fait sur une personnalité d'avoir limité ses mouvements depuis son enfance? On va vraiment essayer d'absorber le personnage à l'intérieur de soi en connaissant tout son contexte, en connaissant toute sa vie, en se demandant comment sa vie a influé à la fois corporellement et psychologiquement sur elle. Et c'est comme ça que j'essaye, en fait, de bosser ma documentation, c'est d'avoir tout le contexte de chacun de mes personnages, et me demander dans ce contexte-là, après, comment ils vont réagir. Et ce que j'ai vu, donc, justement, avec mon prof à San Francisco, ce qu'il nous a appris, c'est qu'une fois qu'on a bien fait ce travail, il y a des mouvements qui vont nous venir naturellement sur scène, qui vont plus être les nôtres, qui vont être ceux du personnage. Et c'est pareil, en fait, dans mes romans, c'est quand j'ai bien fait mon boulot en amont, il y a des moments, ben, l'écriture, ça va m'entraîner. Et ça va faire comme de l'écriture automatique, mais en fait, parce que ça a été travaillé en amont. Et les personnages, ils vont vivre d'eux-mêmes, ils vont me surprendre, ils vont m'entraîner dans la direction inattendue, mais c'est parce qu'en amont, j'ai fait au maximum tout ce boulot-là de les connaître. Par exemple, aussi, j'essaye, quand il y a des scènes de combat, quand c'est pas trop extrême, parce que dans Porcelaine, il faut un combat sur une roue à aube, une immense roue à aube, je suis jamais montée sur une immense roue à aube pour me battre au sabre. Hein. Bon, d'ailleurs, il faut mieux pas, vu mon équilibre. Mais par exemple, j'essaye, avec des amis combattants, de tester au maximum les combats et les styles de combat qu'il y a dans mes romans. Dans La Voix des Oracles, il y a par exemple un ancien légionnaire qui se bat avec un glaive romain. Et ne serait-ce que tester un peu le glaive romain pour voir que c'est une arme qui est maniable mais qui n'a pas beaucoup d'allonge. Et, ou au contraire, le pilum, par contre, c'est une arme qui a beaucoup d'allonge et qui est une arme qui est plus facile à prendre en main quand on n'y connaît vraiment rien. Donc ça va vraiment être l'arme de ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en combat. Et d'essayer de tester moi, mais en sachant que moi, j'ai évidemment pas l'expérience que va avoir mon légionnaire. Donc après, en imagination, je vais essayer de faire... Ouais, maintenant, si j'avais de l'expérience, comment je me sentirais? C'est vraiment... Voilà, c'est ça aussi, se mettre dans la peau des personnages. C'est Même pour la voix des oracles, on a appris à cuisiner à la méthode romaine au maximum. Avec ma cousine préférée qui est vachement douée en cuisine, alors que moi, je ne suis pas. Mais on s'est fait des recettes romaines et on s'est rendu compte que les goûts étaient finalement plus proches des goûts libanais de nos jours que des goûts du Moyen-Âge en Europe. Donc ça, c'est pareil, c'est reconstituer toute une période, c'est aussi ce genre de petits détails vraiment. Et qui servent à, enfin, qui dans les romans vont occuper par moments une demi-phrase. Mais c'est de demi-phrase en demi-phrase tout un monde qui se crée. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans les bons romans de science-fiction, dans les bons romans de fantasy. C'est comment il y a plein de petits détails infimes qu'on ne remarque pas à la première lecture et qui finalement, tout mis ensemble, vont créer un monde super cohérent et dans lequel on va vraiment être impliqué. Et donc ça, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, bêtement, les romans, c'est les meilleures machines pour voyager dans le temps, que ce soit dans le présent, dans le passé ou dans le futur. On a vraiment, enfin, on peut avoir toute une époque qui vit autour de nous et ça, c'est fabuleux, quoi.
Et à côté de ça, tu continuais à publier des nouvelles. Est-ce que le travail de novelliste est différent pour toi, l'approche de la nouvelle est différente pour toi, dans ta méthode de travail ?
Bah, pour le coup, les nouvelles, je ne vais pas faire des heures de documentation. Enfin, si des heures, si, mais des jours, non. Parce que des jours de documentation pour les nouvelles, bêtement, ça prendrait vraiment beaucoup de temps sur l'emploi du temps. Les nouvelles, c'est plus, je pars de monde que j'aime, que je n'ai pas forcément pu expérimenter en roman. Et je tente des choses. Je tente des choses, je parle de ce qui me tient à cœur, j'essaye de faire des éclats d'univers et de tester des nouveaux mondes. Par exemple, il y a une chose, enfin, des univers que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est littérature d'Europe de l'Est. Et j'en ai beaucoup lu, j'ai un peu pu voyager, notamment j'ai fait un super voyage en Pologne qui m'a beaucoup marqué. Et tous ces univers-là, je n'avais pas eu l'occasion de les mettre en roman. Et puis, il y a quelques années, les Moutons électriques cherchaient des nouvelles pour la revue Fiction, qui est morte depuis. Bon, je me suis dit, tiens, je vais tester une nouvelle en Europe de l'Est. Donc, j'ai fait une nouvelle en Ukraine. Et voilà, c'est des choses, j'ai des envies d'univers que, pour l'instant, je ne me vois pas concrétiser en roman, ou que je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Je les teste en nouvelle et je vois si ça fonctionne. C'est vraiment ça.
Et du point de vue du style, par rapport au format court, est-ce que tu es plus rigoureuse ? Tu cisailles ton style de manière beaucoup plus précise ? Ou tu as une réflexion stylistique beaucoup plus poussée ou non ?
Disons, les nouvelles, je les cisaille un peu comme mes premiers chapitres, en fait. C'est-à-dire, dans un roman, il y a les premiers chapitres, donc ils vont être énormément travaillés. Après, il y a des passages sur lesquels je vais revenir énormément aussi. Il y a certains chapitres particuliers qui sont très, très bossés. Mais il y en a d'autres qui s'écrivent quasiment au fil de la plume, et puis quand on les relit, quand l'éditeur les relit, quand mon meilleur ami bêta lecteur méchant les relit, il trouve finalement ça passe. Ça passe parce que j'étais dans l'ambiance, tout ça. Alors que les nouvelles, vraiment, oui, ça va être très travaillé, comme les premiers chapitres ou comme certains endroits très particuliers de mes livres qui vont être super travaillés aussi. Donc, par exemple, dans La Voix des Oracles, dans les passages qui ont été très très travaillés, il y a la deuxième partie du premier tome qu'on a entièrement refaite. Et surtout, il y a un passage dans une villa en ruine qui est au milieu du tome. Et ça, ce passage dans la villa en ruine, c'est vraiment là qu'on a trouvé l'aspect civilisation des Cathy qu'on voulait. C'est vraiment là qu'on voit mourir l'Empire romain dans ce passage-là. Et ce passage de la villa en ruine, même si au milieu du tome, on y a passé un temps de malade. Et chaque nouvelle, j'y passe un temps énorme stylistiquement, comme ce passage de la ville en ruine ou comme mes premiers chapitres.
Et ça te prend combien de temps d'écrire une nouvelle, grosso modo, sur...
Je sais pas, quelque part je quantifie pas en fait, parce que si je quantifie, après ça me fait peur et après j'en fais moins.
D'accord.
Mais, c'est lâche.
Avec cette expérience de novelliste, tu as été aussi anthologiste pour Parchemin et Traverse. Est-ce que se retrouver aussi rapidement de l'autre côté de la barrière, à devoir recevoir des textes, à les corriger, à pouvoir choisir, à en choisir pour monter une anthologie, c'est pas aussi formateur en termes d'écriture ?
Ah, complètement, ça c'est. Je me suis retrouvée un peu par hasard aussi anthologiste, donc pour Parchemin et Traverse. Et c'est vrai que de me retrouver de l'autre côté et de vouloir. Vraiment, ce que je voulais faire comme anthologiste, c'est. Une anto, il y a à la fois des auteurs déjà un peu confirmés, qui m'ont fait confiance alors que j'étais super débutante, donc ça c'est super cool à eux, et des auteurs qui soient milieu de gamme, et des auteurs qui soient complètement débutants. et de travailler un texte avec des auteurs complètement débutants et de les voir prendre confiance en eux au fil de l'écriture, c'était une expérience géniale. Et travailler sur les textes des autres, ça permet aussi de voir quelles peuvent être les forces et les faiblesses d'un texte et après d'arriver à beaucoup mieux les repérer chez soi. Donc c'est super formateur pour ça aussi. Et en même temps, c'est plein de super rencontres. Donc il y a vraiment des auteurs qui depuis sont devenus des amis, qui m'ont donné des coups de main à leur tour, que j'ai rencontrés lors de ces anthologies. Et vraiment, à la fois sur le plan humain et sur le plan de l'écriture pure, c'est super formateur. Et globalement, j'aime bien voir aussi ce qui se passe dans les coulisses. Donc j'aime bien, c'est pour ça que je suis passée de comédienne à metteur en scène et puis maintenant, j'espère, à réalisatrice. Finalement, j'aime bien voir ce qui se passe derrière, derrière les scènes. Et les anthologies, c'est super pour ça.
Et ensuite, tu as enchaîné sur Éclat de givre, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On arrive sur un ouvrage que tu qualifiais d'horreur picture show quand on préparait d'inspiration, horreur picture show quand tu en parlais.
Alors en gros...
D'où t'es venue l'idée d'Éclat de givre, en fait ?
Un Éclat de givre, c'est du post-apo pas glauque. Parce que je suis une grosse fan de post-apo, je suis passionnée dans la salle. Voilà. Et... Mais en même temps, je sortais d'une quand j'ai écrit un éclat de givre, en fait, je sortais d'une période qui avait été assez dure pour pas mal de mes proches et pour moi côté boulot, et surtout pour j'avais des proches qui avaient vraiment une année très difficile. Le contexte en plus en France n'était pas top non plus, et j'avais pour finir lu beaucoup de post-apo très plombant, hyper bien écrit mais super plombant. Et il y a un moment, j'ai eu envie de secouer tout ça et j'étais de retour de festival dans un train, retour de festival à Montpellier. Et tout à coup, je me suis dit, mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de tous ces trucs pesants, j'en peux plus. J'ai besoin de parler d'espoir. J'ai besoin de parler de l'espoir qui continue à exister sur les ruines. Et vraiment, la musique qui me remonte le moral, enfin, à chaque fois que j'ai un petit coup de blues ou tout ça, je me remets le Rocky Horror Picture Show. C'est vraiment un de mes films fondateurs, une de mes musiques fondatrices. Enfin, voilà, je veux dire, le côté cabaret déjanté freak show, c'est tellement voilà, ce qui me remonte le moral à chaque fois que je me suis mis, et je me suis dit, voilà, je veux faire un monde où, ok, tout a été détruit. Mais on est 100 ans, en gros, après l'apocalypse. Enfin, j'ai détruit 90% de la planète. Il y a quelques grandes villes qui ont survécu, dont Paris. Les autres, on ne sait pas trop. Parce qu'on est dans la tête d'un Parisien. C'est mon premier roman à la première personne. Et on n'a plus de contact avec les autres villes. Et donc, Paris est devenu une ville surpeuplée. Il y a des bouts de technologie plus avancés que chez nous. Des bouts de monde virtuel qui imbibent le réel. Et d'un autre côté, il y a des coins qui sont revenus au Moyen-Âge façon Cours des Miracles, avec des maisons sur les ponts comme au XVIIe siècle. Enfin, il y a des vignes OGM qui ont envahi Montmartre. Et dedans, on suit un personnage qui est assez barré, assez... Voilà, à la fois assez cassé et en même temps qui se relève toujours et qui reprend toujours le combat, qui a une chose pour lui. Il a une énorme force de... Voilà, une énorme force de vie, une façon de se relever à chaque fois. Il fonce tête baissée dans les pires ennuis possibles, mais il arrive quand même, parfois un peu plus difficilement, à toujours redresser la tête. Et c'est ça que je voulais dire, c'est on peut quand même faire quelque chose, et même on peut trouver, on peut trouver des choses non seulement intéressantes, mais finalement fun après l'apocalypse, c'est la vie continue. Et comment on peut continuer à avancer, comment on peut continuer à vivre sans mièvrerie, sans dire que tout est facile, parce que c'est vraiment un monde difficile. Et qui a fortiori nous paraîtrait nous plus dur qu'il paraît à ce personnage qui a connu que ce monde là mais c'est un monde qui vaut la peine d'être vécu et on est dans un monde qui vaut la peine d'être vécu et c'est aussi un éclat de givre, c'est un personnage qui arrive à survivre parce que la manière dont il raconte sa propre histoire c'est une manière qui est pleine d'espoir, qui est pleine d'imagination et finalement la manière dont on raconte nos vies ou les histoires qu'on raconte finissent par influencer le monde dans lequel nous vivons. Et si on raconte des histoires qui portent de l'espoir, ça redonne de l'espoir dans le monde. Et ça, j'y crois très fort. Je crois vraiment que les histoires qu'on raconte et la manière dont on raconte nos vies influencent le monde dans lequel on vit. Bah, déjà, sinon, je ne ferais pas ce métier-là, quoi. Et voilà. Et donc, si on parle d'espoir crédible, mais si on parle d'espoir quand même, on sera dans un monde qui finira par aller mieux. Et j'en suis convaincue et tant pis si ça fait de moi une incurable optimiste. Voilà. Désolée.
Non, il n'y a pas de souci. Comment ça s'est passé au niveau de la rédaction, justement, comme tu n'étais plus dans un cadre vraiment historique mais post-apocalyptique, est-ce que tu as laissé plus libre cours à ton imagination en termes de décor, en termes de...
Ah bah non, parce que là-dessus, je suis par contre assez, à fond dans ce que je fais. Et donc, pour un éclat de givre, pareil, même si ça ne se voit pas du tout, je pense, dans le roman, en tout cas très peu, des retours que j'ai eus, je voulais que mon monde, quand même, soit crédible. dans les mondes de SF, j'aime beaucoup quand il y a une vraie crédibilité. Mais que c'est pas asséné au lecteur. C'est-à-dire, on vous donne pas une leçon de science, mais on sent que le monde y tient sur ses papattes. Et donc, notamment avec ma mère, qui s'y connaît pas mal en énergie renouvelable aussi. C'est super pratique pour les auteurs de SF, la pavillon scientifique, c'est génial. C'est une solution de facilité comme c'est pas permis. Donc on a mis au point à la fois une apocalypse scientifiquement crédible et tout un système, par exemple tout le système d'énergie renouvelable qui court dans la ville de Paris à cette époque est un système d'énergie renouvelable qui peut fonctionner, qui peut alimenter une ville de cette taille. Donc en cumulant diverses énergies et tout ça, mais c'est toutes ces petites choses-là. Et l'apocalypse elle-même, la manière dont la ville a à la fois décru et puis dont elle s'est reconstruite, on l'a beaucoup bossé aussi pour que ce soit, encore une fois, possible. Et après, il y a un feeling de roman fantastique, mais parce que finalement, mon héros de Chet, il vit sa vie comme s'il vivait un roman d'aventure, voire par moments une quête de fantaisie. Donc, c'est écrit aussi comme du fantastique et comme de la fantaisie, mais vraiment, la base est crédible. Et là, par exemple, en ce moment, je suis en train de bosser sur du Space Ops. Il y en a certains qui étaient hier matin en bas, on causait Space Ops. Donc j'espère, je suis sur mon premier space opéra. Youpi. Et donc toujours, en fait, avec ma mère, on est en train de construire notre premier vaisseau spatial. Et pareil, de trouver un vaisseau spatial qui dise quelque chose humainement, littérairement, et qui en même temps soit scientifiquement crédible.
Je te conseille de aller voir le président du festival qui a écrit quelques ouvrages là-dessus.
Oui, j'ai cru comprendre en effet.
Oh my God. Mais... le principe de la quête, de l'accomplissement, c'est un thème fort pour toi. Est-ce que c'est une volonté assumée ou c'est ça arrive à chaque fois donc, pour tes héros de se dépasser, de voyager, d'avoir c'est difficile. Désolé, on est le dernier jour du festival.
Oh, mais c'est.
Est-ce que c'est quelque chose de récurrent pour toi d'avoir une part d'espoir? Je pense aussi à la voix de l'oracle ou.
En fait, au début, quand j'ai commencé à écrire, donc c'était arrivé un peu par sidération, c'est-à-dire tout à coup, poum, je me retrouve à écrire un livre. Et donc, j'ai pas réfléchi forcément. Enfin, c'était pas une. Déjà, j'essayais d'écrire bien mon livre. C'était et puis d'écrire bien le deuxième, mais c'était pas une démarche super consciente. Et puis, en gros, au moment où j'écrivais Givre, grâce au festival que j'ai fait, grâce aux rencontres avec les lecteurs, grâce aux tables rondes. J'ai commencé, grâce aussi à tout ce qui se passe sur Internet, à toutes les critiques qu'on a sur Internet et tout, grâce notamment à une donc critique qui a beaucoup donc chroniqué mes livres, et c'est super, qui s'appelle Anne Besson, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une spécialiste de la fantasy, et qui m'a aidé à prendre du recul sur mes propres livres. J'ai commencé de plus en plus à écrire consciemment, c'est-à-dire vraiment à me rendre compte que j'avais des thèmes, que j'avais des choses qui me tenaient à cœur, qu'il y a des choses dont je voulais parler, et d'autres au contraire... qui finalement était un temps de mon écriture, mais j'avais envie de passer à autre chose. Et j'ai commencé à pouvoir prendre du recul sur mes propres histoires, et quelque part, dit comme ça, ça peut peut-être paraître moins libre, mais au contraire, d'écrire plus consciemment, j'ai l'impression que ça m'a ouvert plein de portes dans la tête, parce que ça m'a permis d'aller voir plus loin, ça m'a permis de pousser les choses, ça m'a permis aussi de m'autoriser des choses que je m'interdisais tellement inconsciemment que j'ai pas l'impression que je me les interdisais. Donc maintenant, je commence à écrire vraiment en étant beaucoup plus consciente de ce que je fais. Mais pour moi, ça me permet d'enrichir mes univers et même d'être finalement plus barge aussi et plus barrée, quoi, en étant consciente de ce que je fais. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté qu'on gagne sur quelque chose et c'est pas juste la complète inconscience, pour moi en tout cas.
Tu as commencé, tu viens de finir une trilogie qui s'appelle La Voix des Oracles,
ouais.
Chez Screenéo, du coup. Les maisons d'édition dont on parlait il y a 5 minutes. Comment t'es venue l'idée de La Voix des Oracles?
Alors, La Voix des Oracles m'est venue à la base... Est-ce que je peux faire un petit peu de spoiler? Un tout petit peu. En gros, La Voix des Oracles, donc... disons, dans la fantaisie en général, il y a beaucoup d'histoires de prophéties. Avec la prophétie, l'élu et l'élu qui va accomplir la prophétie. Dans la SF, il y a beaucoup d'histoires de voyages dans le temps aussi. Et qui prennent de nos jours, il y a un film qui m'a marqué, mais pas en bien. C'était le. Alors, là, pareil, côté polémique, je l'assume. C'est le deuxième film du reboot de Star Trek au cinéma qu'il y a eu. Celui sur Khan. Et en gros, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la salle.
Oui.
Mais c'est donc un film où tout le casting, donc tous les personnages reviennent dans. Enfin, c'est une nouvelle ligne temporelle. Et simplement, il y a des gens de l'autre ligne temporelle qui leur parlent. Et donc, il y a Khan qui avait des raisons d'être assez énervé dans la série originelle, et donc de bien pourrir la vie au héros. qui là, dans la nouvelle ligne temporelle, n'a plus ses raisons là d'être énervé, mais tout le monde dit quand même ah, attention, c'est lui, il est très méchant. Sauf que dans la nouvelle ligne temporelle, il est très méchant. Pourquoi ? Parce que simplement, il est méchant. Et il n'a plus les raisons qui ont fait que dans la première ligne temporelle, il avait vraiment besoin de se venger. Et disons, il y a une vision maintenant très réactionnaire du voyage dans le temps, ce qui est que de toute manière, quel que soit le parcours des gens sur les lignes temporelles, ils vont de toute manière toujours être méchants. Et ils vont toujours être des enflures, et à l'inverse, les gens bien seront toujours des gens bien. Et j'avais aussi envie de, voilà, de lutter contre ça. De me dire, non, les prophéties, ça ne dit pas la vie des gens. Non, les gens ne sont pas à la base bons ou méchants. C'est peut-être aussi mon côté, enfin, je viens d'une famille d'enseignants. J'ai vu vraiment que les enseignants, c'est les gens qui changent le monde, qui peuvent changer la vie des gens. Vraiment, l'acquis, le parcours qu'on a peut changer notre vie. Concrètement, je vois ma famille, enfin, j'ai vu des gens qui vraiment avaient des parcours soi-disant tout tracés et qui maintenant font des choses incroyables parce qu'ils ont rencontré les bons profs au bon moment. Donc, on n'a jamais des parcours tout tracés. Et de nos jours, il y a un retour vraiment d'une certaine féodalité, c'est-à-dire les enfants de boulangers deviennent boulangers et les enfants de politiciens deviennent politiciens. Ça, vraiment, ça me fait hyper peur. Et on dit souvent de la fantaisie que c'est la littérature de la féodalité et je ne veux pas y croire. La fantaisie, c'est un monde qui est plein de liberté. Et c'était vraiment, ce qui a présidé à la Voix des Oracles au départ, c'était cette idée de dire, je vais vous parler de liberté, je vais vous parler de liberté en fantaisie. Et après, par ailleurs, je suis une grosse fan de littérature historique. Donc, partir sur la période qui est la fin de l'Empire romain, qui est une période absolument passionnante, et en plus peu connue, donc c'est bien, parce que comme c'est une période où il y a encore plein de mystères, où l'auteur peut aller faire son petit marché dans ces mystères-là, c'est un super décor, et j'avais envie d'aller dans ce décor-là aussi.
Et pourquoi le choix ? On est sur un livre une trilogie initiatique, un livre de voyage intérieur.
Ah oui, le côté initiatique, j'en ai pas parlé, désolé.
Ton héroïne est assez jeune, elle doit avoir 15 ans dans le premier roman, si ma mémoire est exacte.
16 ans.
16, j'y étais presque.
Voilà.
Mais comment, c'est presque un... elle a des réflexions très adultes, mais on est sur quelque chose, pas de littérature jeunesse, mais de young adulte. Comment tu travailles ton écriture ? Comment t'as travaillé ton écriture ? Est-ce que tu t'es posé la question de tonalité par rapport à une certaine jeunesse ?
Oui, complètement. C'est-à-dire vraiment, donc Thias, c'est ma série Young Adult, le reste c'est de l'adulte. Et déjà, c'est à la base dans le projet. Quand je me dis c'est une série qui est notamment pour ados, je veux vraiment pour le coup parler d'espoir, mais même plus que dans la littérature adulte. C'est-à-dire, je veux vraiment qu'on puisse avoir une lecture très roman d'aventure du livre. Je veux qu'il y ait une énergie qui soit globalement une énergie positive, même s'il y a des moments qui sont très durs, même si on va dans les enjeux de civilisation très durs. Et c'est ce qu'on disait un petit peu hier à la table ronde sur le roman jeunesse. Les jeunes aujourd'hui vivent dans un monde qui est compliqué, qui est difficile. Donc on ne va pas leur mentir en leur disant que tout est rose. De toute manière, ils savent très bien que tout n'est pas rose. Au contraire, de tout ce que je reçois de la part des lecteurs, de la part des jeunes lecteurs, des ados autour de moi, ils veulent des livres qui leur permettent de trianguler leur monde, qui leur permettent de justement prendre de la distance par rapport à leurs propres difficultés. Donc, ils veulent des mondes durs, mais dans lesquels il y a des héros qui s'en sortent, et qui avancent, qui ne font pas forcément un parcours parfait, mais qui grandissent. Et tu parlais de roman initiatique, c'est vrai que c'est vraiment important pour moi que mes héros, ils aient un parcours dans lesquels ils changent. Déjà parce que, même pour le coup, sans parler de message, une bonne histoire, ça c'est un des scénaristes qui m'a formée, qui nous disait ça et j'y crois beaucoup. En gros, une bonne histoire, une mauvaise histoire, c'est un héros qui va d'un point A à un point A prime, où finalement il lui arrive plein de choses, mais ça ne le change pas. Bon, sauf si on part du principe que le héros est un connard et donc il ne change pas et on en fait une histoire comique, là, ouais, ok. Mais disons, globalement, si on est dans une histoire de fantasy ou de science-fiction, d'aventure, on a un héros qui part d'un point A et qui arrive à un point B. Et le point B, c'est l'évolution du héros. Et ça, c'est une bonne histoire. Et une histoire qui dépote vraiment, c'est le héros qui part du point A et qui arrive au point D, E, F, enfin voilà, qui vraiment va faire une... va avoir son, qui va être bouleversé, qui va essayer de sortir là-dedans quand même, et tout en gardant une cohérence de personnage, sinon c'est pas drôle. Donc, et c'est vraiment une des bases des méthodes d'écriture que j'ai eues, c'est comment le monde va jouer sur le personnage. Disons, c'est la différence entre une série télé, comme... j'en sais rien, enfin, je fais que des exemples clichés qui me viennent dans la tête, c'est atroce. Mais donc, c'est la différence entre une série télé comme Game of Thrones, où mine de rien, les gens évoluent, ont des parcours, grandissent, et une série télé donc, comme Joséphine Ange Gardien, où, de toute manière, donc, Joséphine, elle va rester la même à chaque épisode. Voilà, et moi, très clairement, mon petit cœur d'auteur, il va aux personnages qui grandissent, qui s'en prennent plein la gueule, qui aussi surmonte ça. Ben, dans mes lectures, pour le coup, qui m'ont formé là-dessus, même si la série est imparfaite sur plein de points, c'est vrai qu'un des trucs qu'on avait adoré avec mon frère quand on était môme dans Thorgal, c'est d'avoir un héros qui grandisse, qui devienne père, qui vieillisse. Et ça, voilà, c'est chaque aventure le marquait. On ne lisait pas une aventure pour rien. On lisait pas un Astérix où à la fin Astérix retourne dans son village, même si Astérix c'est très sympa. Mais à la fin Astérix et Obélix, ils retournent dans leur village, il n'y a rien à changer. Non, vraiment, Thorgal, il était marqué par tout ce qu'il vivait. Et il évoluait dans sa relation de couple, dans sa relation familiale. Et ça, vraiment, c'était assez rare à l'époque. Et c'était super. Et vraiment, ça nous accrochait à mort. Et c'est ça aussi que j'essaie de retrouver dans mes livres. C'est pour ça que l'aspect roman initiatique ou l'aspect personnages qui grandissent ou qui se remettent en question est tellement important, ouais, je crois.
Et en décor de fond, dans cette trilogie, il y a un aspect totalement divin, des dieux qui apparaissent, qui sont incarnés, qui sont avatarisés. Je me permets un petit néologisme. Mais comment tu as construit ça? C'était une envie que tu avais dès l'origine du livre ou c'est venu en cours de route en se disant « Tiens, tel dieu qu'on croise dans la mythologie, j'ai envie de le faire apparaître de manière...
Mais je suis une grosse fan de mythologie antique. Donc voilà, c'était... Aussi, j'écris dans des univers qui me plaisent, parce que déjà, c'est assez, je trouve, quand on écrit, c'est assez personnel. Et puis, très franchement, en tant qu'auteur, on n'est pas assez payé pour s'embêter. Mais... Et une chose que j'adore dans les mythologies antiques par rapport aux religions après du livre, au monothéisme, c'est que dans les mythologies antiques, on a des dieux qui sont tellement humains. Et on a des dieux qui sont hyper en couleur et qui, en même temps, sont... Voilà, enfin, qui juste sont des enflures consommées, qui font des erreurs, qui en même temps donc sont hyper cruels avec les hommes, mais par moments même inconsciemment. Enfin, c'est tout ce panthéon-là. A fortiori, à une époque où par moments, comment dire, les religions nous amènent un peu trop d'obscurité dans notre monde. Parler d'une époque où justement il y avait un peu plus de, comment dire, des dieux un peu plus humains et un peu moins tétanisants. Ça me semblait pas forcément un mal.
Tu as donc écrit une trilogie. Est-ce que à la base ça devait être un simple roman ou est-ce que tu avais déjà prévu de scinder ce chemin en trois, comme à peu près les trois personnages représentatifs?
Non, c'était vraiment une trilogie dès la base. Et bah, en fait, il y a un de mes livres qui est pas là, si je peux en parler.
Wow, oui, vas-y.
C'est mon deuxième roman publié en premier qui s'appelle La dernière lame, qui était dans la collection Pandore au Pré-Auclair, qui est une collection qui a une vie, on va dire, courte et compliquée. Et La dernière lame, à la base, ça devait être une trilogie. Et puis, pour des raisons éditoriales qui venaient d'en haut, parce que c'est dans un grand groupe qui s'appelle Editis, on m'a dit non, mais maintenant tout compte fait, ça va être un one shot, tu vas voir, tu vas couper partout, ça va très bien tenir. Et à l'époque, j'avais rien publié, donc voilà, j'étais encore plus bébé auteur. Je me suis dit, je vais écouter les gens qui savent et puis je vais couper. Et on va faire tenir ça. Sauf que les lecteurs ne sont pas dupes. J'y croyais pas à ces coupes et les lecteurs non plus n'y ont pas cru. Et c'est le roman sur lequel les lecteurs m'ont dit, oui, mais il y a des trous partout. La réponse était, oui, il y a des trous partout. Et donc, quand j'ai eu le projet de La Voix des Oracles, qui, pour plein de raisons, demandait vraiment d'être en trois tomes, et d'avoir un arc narratif qui se déploie sur trois tomes, parce qu'aussi chaque tome a sa personnalité, et chaque tome est quelque part une facette différente en fait de cet univers. Donc il y a vraiment besoin d'avoir cet arc narratif en trois tomes, et l'idée c'est que le troisième tome remet tout en question, donc normalement si ça marche bien, quand on a fini le troisième tome, on a envie de tout relire, ça c'est le côté méchant de l'auteur. Je me suis dit, il y a deux choses qui pour moi sont l'ADN de ce projet, c'est une trilogie, et c'est de la fantaisie historique. Il faut qu'il y ait cette période-là, ce 5e siècle. Et en gros, donc j'avais vu un autre éditeur avant Scrineo qui m'avait dit, c'est vachement bien. Alors juste, tu vas enlever le côté historique parce que de toute manière, ça marche pas. Et puis en plus, le 5e siècle, personne ne connaît. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en faire un seul tome. Parce que maintenant, les trilogies, ça ne vend pas. Alors là, par contre, forte de ma minuscule expérience du pré-Auclair, j'ai dit non. Et à ce moment-là, j'ai encore un coup de chance, désolé. J'ai Jean-Paul Arif, l'éditeur de Screeno, qui m'appelle. Et j'avais adoré le boulot qu'ils avaient fait sur les hauts compteurs en jeunesse. Et c'est la première fois que j'avais un éditeur qui m'appelait au téléphone. Pour être tout à fait honnête, pour l'instant, c'est aussi la seule hein, dans ma vie. Bonjour, je suis Jean-Paul Arif de Screeno. J'aimerais vous rencontrer pour parler projet. Cool. Et j'y vais. Et là, je me dis, tant pis, j'y vais en disant, voilà, j'ai ce projet-là. Mais il y a ça et ça qui sont pas négociables. Après, j'adore bosser mes bouquins avec les éditeurs. Je trouve qu'on a vraiment besoin d'un éditeur pour que le livre il arrive à son état absolu. Mais par contre, il y a des choses qui font partie de l'ADN d'un livre. Et donc, soit vous partez avec moi sur cet ADN-là, ben, soit tant pis, quoi. Et puis, on se retrouvera sur autre chose. Et ce que j'ai adoré, c'est que tout de suite, il a été partant justement parce que c'était en 3 tomes, justement parce que dans le 3e tome, il y a un truc particulier qui se passe que je ne vais pas dévoiler ici, justement parce que c'était de l'historique et parce que c'était une période peu connue. Ils m'ont encouragé à aller à fond dans le côté civilisationnel, enfin, ils m'ont encouragé à aller à fond dans la personnalité de la série. Et ça, c'est vraiment une grande chance que j'ai eu de pouvoir développer ça avec Screeno là-dessus. Et en même temps, pour le coup, une chance que j'ai un peu construit parce que j'ai vraiment dit, ce projet-là, je le fais avec un éditeur qui part à fond. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, de placer chaque projet chez l'éditeur qui va vouloir faire le même livre que moi et qui va être à 200% derrière moi pour faire le même livre. Et on a la chance d'avoir un paysage éditorial dans lequel c'est possible. Et s'il y a vraiment une chose que j'avais un petit peu commencé à voir dans mes études, mais que je vois maintenant depuis que je suis auteur, c'est qu'on n'est pas auteur tout seul. On est auteur parce qu'il y a un paysage, parce qu'il y a des éditeurs, parce qu'il y a des festivals, parce qu'il y a des lecteurs qui nous permettent d'exister et de nous développer. Et vraiment, on a la chance en ce moment, dans la littérature de l'imaginaire, d'avoir un moment en France où il y a plein de choses qui sont possibles. Et c'est grâce à vous tous aussi, quoi. Donc, c'est un très, très chouette moment.
En parlant de tes lecteurs, les retours de tes lecteurs sur les premiers tomes t'ont-ils servi pour finir d'écrire sur la fin de ta trilogie ?
Ça, justement, c'est une des choses dont on a parlé très vite avec Screeno. Donc, on partait sur une trilogie. Et maintenant, il y a 2 manières, en gros, de faire une trilogie. C'est soit on écrit tout, et puis après, on sort les tomes, un, puis un, puis un. Et ce que j'ai... Quand j'en ai parlé avec Jean-Paul Arif, j'ai dit, moi, ce que j'aimerais, c'est sortir un tome, puis voir les réactions des lecteurs, pas pour changer le grand arc narratif, parce que lui, il était déjà là, mais pour faire des petits ajustements en fonction des réactions de lecteurs. Et il m'a dit, oui, mais moi, je veux, en gros, qu'il y ait moins d'un an d'attente entre chaque tome. Est-ce que tu es capable d'écrire assez vite ? Alors là-dessus, comment dire, j'ai tendance à dire oui d'abord et réfléchir après. Donc j'ai dit oui. Et finalement, j'y suis arrivée, mais aussi parce que j'ai eu la chance que dès le premier tome, la série rencontre ses lecteurs. Donc ça m'a vraiment boostée. Il y a une énergie de malade qu'ils m'ont donnée. Tous ces gentils lecteurs, merci à eux. Et oui, il y a des petites choses. Ben, par exemple, il y a un personnage dans le premier tome, je ne dis pas lequel, qui n'aurait pas dû apparaître dans les autres et qui est devenu un personnage important du tome 2 et qui est encore dans le tome 3. Et ça, c'est parce que c'est les lecteurs qui ont accroché dessus. Il y a aussi donc Enoch, le personnage du tome 2, mais l'actrice du tome 1, qui sont méchantes, m'ont dit, quand même, Enoch, faudrait qu'il souffre un peu plus dans le 2 parce que, je cite, il est tellement beau quand il souffre. Voilà. Alors je dis mes lectrices parce que vraiment, c'est peut-être aussi le côté festival de fantasy. Je connais pour l'instant moins les festivals de SF. En festival de fantasy, c'est vraiment les filles qui s'expriment à mort, hein, beaucoup plus que les mecs. Et donc, résultat, Enoch souffre vraiment beaucoup dans le tome 2.
Voire trop, même.
Alors ça, après, c'est... Et les mêmes lectrices, après, sans doute prises de remords, vont me dire, alors c'est bien qu'il souffre dans le tome 2, mais dans le tome 3, on voudrait qu'il ait un vrai moment de bonheur. Donc, j'ai promis un vrai moment de bonheur pour Enoch. Après, à voir si certaines m'ont dit, ouais, quand même, t'as un peu triché quand même. D'autres m'ont dit, si, c'est un vrai moment de bonheur. Donc, je les juge. Voilà, c'est de toute manière, c'est les lecteurs qui jugent, et puis nous. Mais c'est vrai que, disons, notamment sur ce personnage d'Enoch, qui aussi a pris un peu plus d'ampleur que ce qu'il aurait dû au départ, parce que vraiment, dans le tome 2, avec les retours notamment de l'actrice, je me suis mis à lui donner un côté un peu, comment dire, c'est vraiment mon personnage à transformation. Je me suis mis à le transformer, à le déformer, tout ça. Et encore plus dans le tome 3, en fait, je me suis beaucoup amusée avec lui, plus que prévu, et ça, c'est beaucoup grâce au retour des lecteurs et des lectrices. Et j'ai adoré aussi, pareil, jouer avec lui comme ça, le transformer, même physiquement. Et voilà, et ça, c'est grâce au retour de lecteurs.
D'ailleurs, le principe de transformation physique est important dans tes thématiques de métamorphose, même au sens large.
Ah ben, complètement. Ben déjà, mon prochain roman là, qui va sortir début mars, si tout va bien, C'est un gros one-shot de fantasy hyper adulte pour le coup, et dont une partie de l'histoire est racontée par une fille métamorphe. Donc le côté vraiment métamorphose, oui, est complètement essentiel. Bah, encore une fois, je viens du théâtre, et ce que j'adore dans le théâtre, c'est devenir quelqu'un d'autre, entrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Ce que j'adore dans la littérature en général, et littérature de l'imaginaire en particulier, c'est sortir de ma carcasse pour entrer... voilà, pour entrer dans la peau d'une fille métamorphe, là, donc pour le prochain, donc d'un vieux légionnaire romain dans la voie des oracles, pour entrer dans la peau aussi, mine de rien, bah, là dans mon space up, d'entrer dans la peau de choses non humaines, d'entrer dans la peau vraiment donc d'un robot, d'une intelligence artificielle qui vit dans des cristaux suspendus en l'air, enfin vraiment de voir le monde sous une perspective différente, et en prenant cette perspective là de voir comment on voit le monde. Et c'est le même monde, mais c'est plus le même aussi parce que la perspective change. Et la notion de point de vue, comment la position de l'observateur change ce qu'on observe, c'est une des choses qui vraiment m'intéresse beaucoup en littérature et a fortiori en fantasy, en SF.
On va parler de tes projets, tes autres projets. Tu disais que tu allais devenir réalisatrice ou que tu étais en cours de production.
Alors par ailleurs, je suis en train de galérer méchamment dans le joyeux monde du cinéma français.
Mais est-ce que la littérature de genre t'influence dans tes futures productions ?
Disons, c'est pas tant que ça m'influence, c'est que mon monde de base, sans que je fasse exprès vraiment, c'est la SF, c'est la fantasy, c'est ma... C'est mon identité culturelle, si on peut dire. Enfin, j'aime pas ce mot, mais comment dire, c'est ce que je suis, quoi. C'est ma manière de penser le monde, de réfléchir le monde, de voir le monde. C'est ma manière d'écrire des histoires. Et donc, c'est ma manière de voir le monde et de le raconter. Donc, de fait, en scénario, en film, en cinéma, c'est ce que je fais aussi. Et après, bon, je pense que c'est pas la grande révélation du siècle. En France, on a un paysage qui est super gentil en édition pour le genre. C'est beaucoup plus difficile de monter des projets de genre en cinéma. C'est beaucoup plus difficile de monter de la SF et du fantastique en cinéma qu'en édition. On n'a vraiment pas le même milieu. Et il y a beaucoup de gens très bien qui se battent énormément pour faire bouger les choses. Et j'ai une énorme, énorme admiration pour eux. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a une vitalité et un professionnalisme du paysage en édition qui manque parfois dans le côté cinéma et scénario. Dans mes grandes aventures de scénariste, en sortant de mon école de scénario, donc je rencontre des producteurs pour placer des scénarios. Évidemment, j'étais déjà marquée SF et fantasy, on se refait pas. Et je rencontre des producteurs qui me disent qu'ils veulent faire des séries de SF et de fantasy. Et je me retrouve quand même face à un producteur qui était moins âgé que moi à l'époque, alors que déjà j'étais vraiment encore plus jeune, et qui me dit en pleine sortie du dernier Harry Potter au ciné, « Oui, mais les jeunes aujourd'hui, ils n'aiment pas la magie. » Voilà, c'est des moments, mais surréalistes. Et alors qu'en édition, on a des éditeurs, mais notamment André-François Rio, des Moutons électriques, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, c'est un gars d'une culture incroyable, je veux dire. Enfin, on a l'impression que sa tête, c'est une bibliothèque qui ouvre sur une autre bibliothèque, qui ouvre sur une autre bibliothèque. Et derrière, il y a encore plein de bibliothèques, quoi. C'est, les gens avec qui je travaille en édition sont d'une ouverture et d'une culture qui est bluffante et d'un professionnalisme qui est juste incroyable, quoi. Enfin, ils sont là pour faire des beaux projets. Ils sont là avant tout par passion. Et ça, c'est génial. Et des passionnés, évidemment, il y en a plein dans le ciné, il y en a qui essayent de faire bouger les choses. Ou dans la télé, il y en a qui essayent de faire bouger les choses, mais il y a aussi tellement de gens qui sont là pour la gloriole, pour les paillettes, et qui... Voilà, enfin, c'est pas ma raison d'être dans ces boulots-là, et donc après, je sais que dans l'édition, il y en a qui me trouvent un petit peu bisounours quand je parle des mondes de l'édition, qui trouvent que j'ai un peu des petites paillettes plein les yeux, mais franchement, quand je vois... Pourtant, j'adore l'autre côté de la barrière, j'adore le côté aussi le côté scénario, mais quand je vois comment en édition, on a plein de chances, plein de facilités, oui, forcément, j'ai des paillettes plein les yeux quand je parle d'édition, et j'assume.
J'avais une petite dernière question. Le thème de cette année, c'est la machine aux Utopiales. Quelle machine souhaiterais-tu voir créer et pourquoi ?
Alors, dans les machines que je souhaiterais voir créer, c'est pas vraiment une machine, mais moi, le rêve ultime pour moi, c'est évidemment le vaisseau spatial, c'est évidemment de partir plus loin, d'aller voir plus loin ce qui se passe. Voilà, enfin ça, c'est... Je sais pas si ça répond assez bien à la question, mais...
Tout à fait.
Mais c'est complètement, c'est le rêve absolu, bien sûr.
Viewer, il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment, n'hésitez pas.
Oui, hier, dans la table ronde sur la littérature jeunesse, vous avez évoqué deux aspects qui m'ont paru, non pas contradictoires, mais différents. D'une part, vous vous adressez à des jeunes désenchantés qui dans ce monde actuel, galèrent, disons. Et d'autre côté, ce côté de mythologie, sur lequel je vous ai d'ailleurs interpellé, vous paraît très fort. Comment la mythologie, l'antiquité, des choses comme ça, peuvent-elles percuter la modernité des jeunes en galère actuellement?
Alors, là, en fait, votre question rejoint un enjeu qui me tient beaucoup à cœur, mais qui surtout est un enjeu très actuel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ce qui se passe autour de l'enseignement du latin et du grec aujourd'hui en France. On est en train de couper dedans méchamment. Et évidemment, on coupe avant tout dans l'enseignement du latin et du grec dans les endroits les plus défavorisés, sinon c'est pas drôle. Et pourtant, c'est vraiment là. C'est dans les endroits où justement il y a des jeunes qui galèrent. C'est dans les endroits où il y a des jeunes et des ados dont l'horizon se rétrécit chaque jour qu'il faut au contraire amener de la culture, de la mythologie, qu'il faut amener des cultures qui permettent de voir plus loin. Parce que finalement... L'un des grands mots que je vois, donc ne serait-ce que dans les parties vraiment difficiles de mon coin de banlieue, c'est des jeunes qui n'arrivent même plus à penser un horizon plus grand que celui qui va en gros au-delà de la barre d'immeuble d'à côté. Et l'imaginaire, la mythologie permet de penser un horizon plus vaste. Par exemple, pourquoi je parle du 5e siècle ici, qui est la fin de l'Empire romain et le début des royaumes barbares, en prenant à la base une adolescente romaine qui au début est pétrie de culture romaine. Au début, il y a... C'est une ado qui voit mourir son monde et qui pense que la civilisation va finir. Et elle est dans cette idée que, de toute manière, ça ne peut que aller plus mal. Et finalement, dans son parcours, elle va s'apercevoir que les choses sont plus compliquées et qu'elle peut peut-être se faire une place dans un nouveau monde. Et ça, c'est exactement les enjeux super actuels de plein d'ados dans les banlieues aujourd'hui. C'est comment se faire une place dans le monde. Et en ouvrant l'horizon, en disant « Hé, regardez !» Il y a déjà eu des périodes comme ça dans l'histoire de l'humanité. Il y a déjà eu ces enjeux-là qui se sont posés et on a réussi à survivre et même on a réussi après à créer de nouvelles civilisations parfois encore plus belles ou au moins aussi belles. Et on a réussi à faire avancer les choses. C'est hyper porteur d'espoir. Dans mes expériences personnelles, par exemple, il y a une petite gamine avec qui je faisais de l'expression écrite et qui, quand je l'ai rencontrée, elle était en CM2. Elle n'arrivait pas à écrire un conte de fées. Elle avait un devoir, c'était écrire, raconter un conte de fées. Elle n'y arrivait pas. Et elle n'arrivait pas non plus à comprendre qu'on puisse mettre du fantastique dans notre monde actuel. Qu'on puisse mettre, en gros, une fée dans une rue de banlieue. Ça, c'était vraiment quelque chose. Pour elle, il y avait le monde des Disney, mais c'était les Disney, c'était cadré. Et ensuite, il y avait son monde à elle. Et je lui ai fait lire... un hyper classique pourtant pour moi c'est un hyper grand classique de la littérature pour enfants qui sont La sorcière du placard à balai. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, en gros, donc c'est une sorcière dans un placard à balai, dans un monde super quotidien. Et vraiment, ça a été une révélation pour la môme. C'est-à-dire, on peut mettre une sorcière dans son monde à elle. Et tout à coup, ça fait qu'on n'est plus prisonnier d'une réalité qui nous oppresse, mais qu'on peut, dans cette réalité-là, avec notre imaginaire à nous, déjà amener un peu de jeu. Déjà, on peut un peu se réapproprier le réel. Et on peut déjà au moins commencer à jouer avec sa réalité. Et vraiment, c'est... Et les mythologies, en plus, y a aussi autre chose. Donc, quand je parle de l'Empire romain, et quelque chose qui, pareil, fait ouvrir des grands yeux vraiment à des mômes, c'est l'Empire romain, c'est une période où, finalement, l'Europe tourne autour de la Méditerranée, beaucoup. Et où, autour de la Méditerranée, il y a un grand... Comment dire, il y a une sorte de grand maelstrom culturel. Et pour les mômes qui vivent dans les banlieues parisiennes à l'année, puis vont passer les vacances au bled de l'autre côté de la Méditerranée. Mais pour eux, c'est deux mondes qui sont complètement différents, qui ne communiquent pas. Et là, tout à coup, ils s'aperçoivent que c'est deux mondes qui ont une histoire commune. Et ils s'aperçoivent que c'est deux mondes qui, en fait, ont partagé énormément de choses. Et tout à coup, ils sont moins tiraillés entre deux mondes. Ils sont dans, finalement, un monde. Et en tout cas, dans des mondes qui sont plus si irréconciliables. Et vraiment, de nos jours, a fortiori, avec tout ce qui se passe, avec ces barrières et ces tensions qu'on essaye de faire, qu'on exacerbe entre le Nord et le Sud, de parler de cette histoire commune qu'on a, de dire finalement, on vient tous de ce bassin méditerranéen, où on a eu ce creuset culturel qui nous a tous réunis, c'est hyper porteur d'espoir et c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant, au contraire. Donc vraiment, dans le contexte actuel, dans les endroits difficiles, c'est vraiment là qu'il faut aller parler de mythologie. Et par exemple, on parlait des dieux tout à l'heure. Les dieux de cette époque, ils passent, il y a Mitra qui vient d'Extrême-Orient, et puis qui ensuite est ramené par les armées romaines et les mercenaires jusque donc en Provence. Et en Provence, finalement, les temples du dieu Mitra, c'est parmi les derniers temples païens à avoir survécu à l'ère chrétienne. Et c'est tous ces allers-retours de tous les côtés de la Méditerranée qui montrent que oui, non seulement on peut vivre ensemble, mais que même on l'a déjà fait, quoi. Et ça, c'est hyper important de parler de ça de nos jours, je le trouve, en tout cas. Et donc, oui, aussi, défense du grec et du latin au collège et au lycée, et pareil, j'assume. Voilà. Oui, je pense que... Merci beaucoup à vous d'être là alors que c'est midi le dernier jour.